Enchanté.
Finheads est la série de podcasts qui interroge des femmes clés du secteur de la finance. Elles incarnent une vision, un parcours, une fonction et elles apportent un regard différent sur la finance en livrant des anecdotes sur leurs expériences et leur expertise métier. Aujourd'hui, je suis avec Estelle Braque. Estelle, bonjour.
Bonjour Caroline.
Estelle, moi ce qui m'a marqué quand j'ai étudié un peu ton profil avant de te recevoir, c'est l'éclectisme de tes activités et de tes expériences. Puisque tu es économiste et spécialiste des questions bancaires et financières, tu as fondé ton propre cabinet de conseil en stratégie Piralité, dont tu es également la présidente. Et avant de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale, tu as travaillé pour le groupe BPCE comme chief économiste pour les paiements. Tu es membre d'associations, notamment le réseau européen des femmes dans les paiements. Tu es également membre exécutif du conseil d'administration de l'Africa FinTech Forum, secrétaire exécutif du réseau pour l'Afrique des spécialistes en éducation financière situé à Abidjan. Et parce que tu es diplômée d'un doctorat en sciences économiques et parce que l'éducation te passionne, tu as enseigné le droit des affaires des pays arabes à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Et puis c'est pas tout, puisque tu es également auteur de nombreux articles, notamment pour Revue Banque et pour African Banker. Et tu as également rédigé deux ouvrages, Système bancaire et financier des pays arabes et les mutations du secteur bancaire et financier africain, publié aux éditions L'Harmattan. On en parlait en introduction, tu es membre du réseau européen des femmes dans les paiements. Quels sont les enjeux de cette association ?
Alors, l'IWPN est une association qui a été fondée à Amsterdam et qui a vocation à promouvoir la diversité dans le domaine des paiements. Donc, c'est une association européenne. Je suis rentrée hier de Vienne, nous venons de tenir notre conférence annuelle. Et l'objectif de l'IWPN, c'est de proposer un espace dans lequel nous discutons des sujets métiers, mais d'une façon très, très franche et très directe. Avec on ne va pas relayer un petit peu les discours officiels des entreprises sur les différents sujets. On veut parler de paiement, on veut parler de blockchain, de crypto, etc. On va aller très loin dans la technicité. Mais en même temps, on va avoir des panels qui vont dire les choses très franchement. Et plutôt que de dire la crypto, la blockchain, c'est génial, on va plutôt dire, voilà, s'il y a certains cas, c'est intéressant. Dans d'autres cas, c'est un peu moins intéressant. Et on va aussi réfléchir à comment pourrait se dessiner le monde de demain. Donc, on a abordé, voilà, c'est l'aspect métier. Et puis, on va aborder des sujets peut-être un peu plus sur la place des femmes, mais pas, je parlais de diversité, de la diversité, donc des représentants de toutes les cultures. Des personnes également handicapées, des personnes, voilà, leur place dans le monde professionnel. Et on va en discuter entre nous et aussi se créer un espace safe dans lequel on peut discuter de tout ça. Il y a beaucoup d'échanges d'expériences, de se poser la question comment aider les plus jeunes, comment les mentorer, quelle position on peut prendre nous en tant que plus expérimentés. Donc, c'est cette question du rôle modèle. Est-ce qu'on peut parler des quotas? Est-ce que les quotas, c'est une bonne solution ou pas? Comment on peut influencer les plus jeunes? Est-ce qu'on influence par l'exemple, en étant nous-mêmes, ce qui est un peu ma position? Ou est-ce qu'on va, différentes solutions? Et puis, également, aborder des sujets. Alors là, pour le coup, c'est vraiment plus touchy et plus délicat. Mais donc, ce sont des conférences dans lesquelles, justement, on peut avoir le cœur un peu serré. Et là, par exemple, on a eu un panel sur le trafic humain et comment aussi, dans le domaine des paiements, nous sommes concernés par cet aspect-là, parce que dans le domaine des paiements, dans le trafic humain, tu as un aspect transfert de valeur monétaire et transfert d'argent et comment dans les paiements, on peut apporter des solutions pour tracer, par exemple, ces opérations qui sont associées au trafic humain au trafic de drogue, etc. On a eu notamment le témoignage d'une femme qui a subi ça elle-même et qui a livré un témoignage et qui en est, voilà, elle nous raconte sa vie et comment elle en est sortie et qu'est-ce qu'elle propose et comment elle accompagne aujourd'hui les gens. Donc voilà, on ressort de ces conférences très très motivées pour continuer et encore une fois toujours promouvoir cette ouverture d'esprit qui n'est pas réservée. Quand on parle de diversité, c'est pas que les femmes ou les personnes handicapées. Cette diversité, en fait, elle concerne aussi les hommes, parce que en fait, derrière cette image de voilà, l'homme doit être fort, l'homme, en fait, on se rend compte que, mais c'est pas, enfin, cet impératif qui est donné aux hommes, il les dessert aussi, et il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas envie d'être chef d'entreprise, d'être des leaders, d'être, et donc c'est aussi poser. Se poser dans un endroit dans lequel on peut librement parler de tout ça et c'est très très enrichissant. Et là, pour le coup, nous n'avons pas assez d'hommes qui viennent discuter avec nous. Donc, les hommes ont peur ou ne sont pas encore prêts à venir. On a quelques-uns qui viennent et qui nous disent, mais c'est qui repartent aussi gonflés à bloc. C'est en fait, je dirais plus généralement, proposer un espace dans lequel on peut parler librement de toutes ces choses-là et se poser en tant qu'humain, en fait. On est des professionnels, nous travaillons tous ensemble, mais nous sommes aussi des humains avec des enfants, avec des enjeux, avec des carrières. Et comment on peut juste parler autour d'un café de toutes ces questions-là.
Et tu parlais de créer un environnement safe. Comment est-ce qu'on s'affirme? Comment est-ce que toi, tu t'es affirmée dans cet environnement très masculin?
Je pense que le monde professionnel et la société a énormément avancé, évolué depuis le moment où je suis entrée dans la sphère professionnelle. Moi, quand j'ai fait mes études, on m'avait dit... Votre génération, on était en situation de chômage important, prenez le premier job qu'on voudra bien vous donner. Donc, dans un premier temps, on est entré sur le marché du travail en disant on prend et puis on va s'adapter. Et donc, en partant du principe que le monde professionnel pouvait être difficile. Et je pense que nous sommes aussi, faut se rappeler, c'était avant MeToo, c'était oui il y a quelques années, mais dans un environnement dans lequel voilà on doit s'adapter et clairement dans le, je suis arrivée dans un endroit où il y avait majoritairement des hommes. Bon, je suis un peu garçon manqué, je suis à l'aise comme tu l'as compris avec ma bande de chiralité, mais voilà il y avait quand même un espace assez masculin. Où il y a quelques fois, on va dire, on a pu avaler quelques couleuvres, mais en même temps, on apprenait, il y avait, mais effectivement, j'ai eu des quelque part, oui, à des moments, des réflexions désobligeantes, des regards sur la femme. Un jour, on a voilà promu quelqu'un alors que un job était assez naturellement destiné. J'ai posé la question, pourquoi pas moi? Il me dit, mais toi, t'es en âge d'avoir des enfants, donc tu vas avoir des enfants et donc tu vas sortir du... on va pas te voir pendant 6 mois, donc on préfère promouvoir un homme qui va, lui, va rester dans le domaine... Bon, c'était... Aujourd'hui, cet argument semble complètement hors de propos, mais il était présent. Ce qu'il faut aussi dire, et pour être juste, c'est que le monde des paiements dans lequel j'ai évolué, et c'était aussi un monde des paiements avec des hommes âgés, sans être désobligeante, qui avaient plutôt l'âge d'être l'âge de mes parents. Donc, ils m'ont aussi pris sous leur aile. Donc, je me suis aussi retrouvée dans des tas de situations où j'ai été, alors peut-être on pourrait, dans certains cas, une espèce de regard patriarcal, mais dans d'autres cas aussi, il y avait beaucoup de bienveillance. Et par exemple, Jean-Claude Marelli, qui a été mon premier patron paiement quand je suis rentrée aux Banques Populaires, lui avait ce regard paternel, sympathique et bienveillant. Donc, et aussi quand j'ai évolué, j'ai travaillé dans le domaine, le secteur bancaire du monde arabe et africain, je n'ai pas été traitée de façon désobligeante parce que j'étais une femme. Au contraire, parce que j'étais reconnue, nous sommes encore très peu nombreuses, mais que moi j'étais vue comme quelqu'un d'intelligent et j'ai avec mon c'est un peu les seuls pays où ils m'appellent docteur Estelle, mais voilà et j'étais mise en fait dans une position un petit peu privilégiée qui m'a dans laquelle j'ai pu être écoutée. Il y a eu quelques cas bien évidemment de personnes qui ont pu faire des remarques désobligeantes, mais j'ai quand même été globalement très très bien accueillie. Donc voilà, c'est aussi une balance. Mais il y a effectivement des réflexions, des considérations, et parce que j'étais une femme qui n'ont pas servi. Mais il y a aussi le fait que on avait intégré comme le normal, et le fait de à partir de 2018, quand j'ai intégré European Women Payment Network, l'EWPN, j'ai porté un regard critique sur des situations qui m'ont semblé normales à l'époque où je les vivais. Et rétrospectivement, avec cette nouvelle paire de lunettes, j'ai regardé des situations en me disant « Ah, mais ça, c'est... aujourd'hui, je n'accepterai pas cette situation. » Donc finalement, ça aussi, et c'est quelque chose qui est de nature à te permettre de te sentir plus à l'aise, de te libérer aussi et de te, on dirait en anglais, de empowering, mais finalement de s'autoriser à être soi-même, voilà, aussi plus davantage voilà. Et moi, plus le temps passe et plus je m'autorise à être moi-même.
Et justement, au-delà des freins qu'on a pu te mettre ou des réflexions désobligeantes qu'on t'a faites, est-ce qu'il y a eu des moments où toi-même, tu as eu tes propres freins personnels en tant que femme, où tu as manqué de confiance en toi?
Ah oui, tout à fait. Et sur très, très long terme, je dirais que c'est à peu près aujourd'hui que je ne me mets pas de limite. Mais il a fallu cheminer jusqu'à aujourd'hui pour ça. Oui, je me suis mis beaucoup de limites dans pas mal de domaines, dans les domaines personnels, professionnels. Mais en même temps, j'ai la chance par mon éducation, c'est difficile de définir d'où vient cette petite voix dans ta tête qui te dit. Ouais, ok, a priori, ça a l'air compliqué, mais après tout, et si on essayait? Et ce qui fait que j'ai aussi fait un peu de la compétition sportive en judo. J'ai aussi beaucoup fait de snowboard. À un moment donné, j'étais en même temps, j'enseignais à la fac et je faisais des compétitions de snowboard. Ça se faisait pas trop à l'époque. Et j'ai un peu mélangé les genres parce que j'ai trouvé ça, j'ai un peu exploré toujours. Et en même temps, aujourd'hui, je suis aussi formatrice de futurs professeurs d'une méthode de yoga pour danseurs. La première fois, c'est une méthode que je pratique depuis 2008. Et quand mes professeurs en 2017 m'ont dit, tu devrais faire la formation pour devenir prof toi-même. Je leur ai répondu, mais non, vraiment, là, vous regardez, vous êtes des anciens danseurs de l'Opéra de Paris. Moi, je n'ai pas du tout ce gabarit-là, ni cette formation, ni ce background. Et ils m'ont dit, mais il y a quelque chose en toi qui fait que tu comprends le mouvement. Et tu parlais tout à l'heure de du plaisir à enseigner, à partager. Et ils ont vu ça en moi. Et ils m'ont dit, si, tu devrais le faire. Et j'ai mis le bout des doigts dans l'engrenage et maintenant je donne des stages pour former les futurs profs.
Est-ce que une des solutions pour avancer, pour faire bouger les lignes, c'est la discrimination positive? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu nous parlais tout à l'heure des quotas dont vous discutez au sein de l'association dont je fais partie. Qu'est-ce que tu penses de la discrimination positive et des quotas?
Je pense que c'est un sujet compliqué si on l'aborde de façon générale. Je peux être d'accord avec le fait que dans certaines circonstances, les quotas peuvent être une bonne chose dans des endroits où c'est vraiment verrouillé. Parce que le processus d'apprentissage, le processus de convaincre en fait ceux qui sont déjà en place que le fait de faire entrer de nouvelles de nouvelles personnes différentes. Ça peut prendre du temps si dans un écosystème qui n'est pas convaincu de l'intérêt. On a d'autres systèmes comme par exemple la tech et la, qui recrute, qui a un vrai besoin, une vraie difficulté à recruter des ressources. Aujourd'hui, ils en sont arrivés à un point où que la ressource qui est recrutée soit en présence, en présentiel dans les bureaux ou en remote, et que cette personne-là soit basée en Tunisie, au Maroc, au Sénégal ou en Asie ou à Paris. Ça ne fait aucune importance parce qu'ils ont véritablement un besoin et qu'ils ont expérimenté que le fait de travailler avec des collaborateurs divers et de différentes origines et culturelles, de différences culturelles, eh bien c'est positif. Aujourd'hui, dans les entreprises globalisées, si tu développes un outil ou une application qui a une vocation globale et que tu la développes pour un homme blanc, tu vas planter ton produit parce que une partie seulement de la population mondiale va se reconnaître dans ton produit, et donc tu es obligé de concevoir aussi à l'image de ces futurs utilisateurs.
Merci beaucoup Estelle pour d'être venue nous rejoindre sur FinHeads pour Women in Finance. C'est un entretien très riche. Merci beaucoup.
Merci Caroline.
Enchantée. Thank you.